Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, on va encore prendre du temps vraiment pour la parole de Dieu. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant entendre l'enseignement de la parole de Dieu. Je confesse hardiment. Mon esprit est ouvert. Mon intelligence est réceptive. Mon cœur est prêt à recevoir la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu. Et je ne serai plus jamais le même, plus jamais, plus jamais, plus jamais, en le nom de Jésus. Voilà, on peut commencer. Dans la parole de Dieu, nous avons, par exemple, les proverbes, où dans beaucoup de proverbes, nous savons que c'est un père qui donne des conseils à son fils. Et de la même façon, nous pouvons souvent, quand nous ouvrons la Bible, nous pouvons considérer que c'est notre Père Céleste qui est en train de nous donner des conseils. Ce n'est pas moi qui suis en train maintenant de vous annoncer mon avis ou mes opinions, mais vraiment, je voudrais que vous receviez comme des directives de Dieu, des conseils ou des ordres au choix, des directives de Dieu pour savoir comment certaines choses peuvent se réaliser dans votre vie. Et donc ce message, je l'intitule « Rêve et accomplissement ». Il fait partie d'une série où nous désirons vraiment voir de la part de Dieu comment nous pouvons arriver à une réalisation personnelle. Beaucoup de gens dans le monde font des séminaires, font des études pour essayer de se réaliser personnellement. Des fois, c'est des séminaires en parallèle du professionnel pour développer une carrière. Et nous avons aussi, dans la parole de Dieu, une carrière. La Bible nous le dit clairement. Nous devons nous élancer dans la carrière. Nous devons courir la course. Il y a beaucoup d'images, il y a des similitudes avec des gens qui sont sur les stades ou des gens qui veulent réussir. La Bible n'est pas contre tout cela, bien au contraire. Moi, je crois que Dieu, notre Père, il est comme chacun d'entre nous qui avons des enfants. On désire le meilleur pour ses enfants. On désire qu'ils puissent aller au bout de leurs rêves, de leurs désirs qu'ils ont. Et donc, on a des choses à recevoir. Nous sommes des personnes qui avons un sens de la destinée. On est destiné à quelque chose. On n'est pas juste là pour peupler la terre, point. Pour vivre un temps et puis ensuite mourir. Nous avons ce sens de la destinée. On est là pour une raison. On est là pour vivre en communion avec Dieu, pour étendre son royaume, son influence, parler de lui, montrer aux gens qu'est-ce que ça peut être d'être en communion avec le Créateur de l'univers. C'est pas rien du tout, hein. Et donc, réaliser ça, ça veut dire que tout à coup, on se voit important à cause du regard que Dieu porte sur nous. Mais c'est la réalité. Et moi j'aime, ceux qui me connaissent un petit peu, ont déjà souvent entendu par ma bouche, j'aime ce verset de Éphésiens 3:20, où il est dit, « Or à celui, c'est Dieu, qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Amen, ça ne veut pas dire le message se termine, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, qu'on comprenne, Dieu est infini. Et il veut nous amener dans son domaine à lui, qui dépasse nos capacités, qui dépasse, des fois je l'ai utilisé aussi ce mot, parce que c'est une expression qu'on utilise souvent, nos rêves les plus fous. On a des fois des rêves et Dieu veut nous amener encore bien plus loin que ce qu'on avait imaginé. Donc il faut commencer à imaginer et à penser plus grand. On a un cerveau, il nous a été donné par Dieu. Et hélas, l'être humain l'utilise très très peu. Très très peu. Dans les immenses capacités que nous avons reçues de Dieu, on utilise une toute petite partie. Je ne sais pas comment ils font pour mesurer certaines choses, mais j'entendais des statistiques. Alors ils disent, voilà, le plus grand génie sur Terre n'utilise que 10 ou 15% de ses capacités. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent le mesurer, mais je le crois certainement. On utilise très peu. Quand on pense que Adam a nommé tous les animaux et que Salomon avait une telle sagesse que les gens venaient de partout, rien que pour l'entendre, Dieu a donné aussi une grande capacité et une intelligence à des gens de ce monde maintenant. Actuellement, il y a des gens qui on va loin et on est capable de payer cher juste pour les écouter. Croyez pas que ça devrait être comme ça que le monde vient chercher la sagesse auprès des enfants de Dieu. Ça devrait être normal. Et ainsi, j'entendais qu'un ancien président des États-Unis a fait une conférence. Juste pour cette conférence, une seule conférence, il a été payé 100 000 dollars. Juste une conférence. Je connais un homme de Dieu qui est australien. Il a été payé 1 million de dollars juste pour donner 15 minutes de conseil à une entreprise aux États-Unis. 15 minutes de conseil. Ça montre comment certaines personnes peuvent chiffrer ou valoriser le conseil qu'ils reçoivent auprès d'autres. C'est juste pour donner des illustrations. Mais moi, je crois que nous avons une possibilité de recevoir auprès de Dieu une sagesse qui nous permet pas seulement de rêver, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle les doux rêveurs, ils sont toujours dans les nuages, ça c'est autre chose, mais d'avoir un désir en nous de pouvoir rêver, et ensuite il faut mettre des choses en route pour l'accomplissement de ce rêve. Sinon on peut rêver jusqu'à la fin de nos jours. Alors je rappelle aussi, quand j'avais fait un message sur le désir, j'avais donné cette citation de l'artiste Michel-Ange. Pour ceux qui se rappellent, sinon je vais le rappeler, c'était une prière. Il dit « Seigneur, accorde-moi de désirer plus que je ne peux accomplir. » Telle était la prière du grand artiste Michel-Ange. Les gens qui sont animés de désir travaillent plus dur, sont plus focalisés sur le but et réalisent plus de choses. Là, il dit « Il faut avoir un désir d'accomplir. » C'est comme à l'église. Il faut qu'on change la mentalité du peuple de Dieu en général. Nous n'avons pas besoin que l'église soit comme une espèce de spectacle. Il y a un acteur et puis il y a des spectateurs. Mais nous avons besoin de réaliser que nous n'avons pas besoin juste de remplir l'église pour que je, par exemple, en tant que pasteur, je sois satisfait. Les chaises n'ont pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit assis dessus. Mais ce que vous avez besoin de réaliser, c'est que nous sommes tous ensemble appelés et on est là pour un temps de formation, un temps d'apprentissage pour l'œuvre à laquelle nous sommes appelés par Dieu. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Si vous êtes toujours avec moi dans Éphésiens, vous regardez de l'autre côté de la plage, dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage. Dites-le avec moi. Nous sommes son ouvrage. Je suis son ouvrage. Tu es son ouvrage, dites-le à votre voisin. Tu as été créé par Jésus-Christ. Tu as été créé par Jésus-Christ. Tu n'es pas l'objet du hasard, tu n'as pas été créé par erreur, tu as été créé par Jésus-Christ. Recréé, on pourrait même rajouter, pour de bonnes œuvres, en vue de quelque chose, pour de bonnes œuvres. Dites-le avec moi, pour de bonnes œuvres. Pas pour n'importe quoi. Pas pour des œuvres pénibles ou des œuvres qu'on n'aurait pas envie d'en parler, mais pour de bonnes œuvres. Ce sont vraiment des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance. Nous ne sommes pas créateurs à l'égal de Dieu. Nous sommes créateurs, on pourrait dire, à l'image de Dieu. Nous créons, et il y a une création sur terre qui n'est en fait que l'aboutissement de ce que Dieu veut faire ici-bas. Il nous donne dans notre cœur les pensées, les idées, de choses qu'il aimerait voir sur terre. Et nous sommes alors les bras de Dieu en action. Dieu les a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous ne sommes pas les ouvriers de Dieu, nous sommes co-ouvriers avec lui. Et ça change tout. Donc il y a des choses que nous sommes appelés à faire, il y a des choses que vous désirez pour vous-même. Maintenant, je veux vous faire passer par un certain nombre de tests. On va un peu s'examiner ensemble, si vous le voulez bien. Alors, si vous deviez, par exemple, ça vous pouvez faire un travail vous-même à la maison, mais je vous donne déjà quelques indications. L'apôtre Paul disait, je fais une seule chose, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Il y a des gens qui veulent tellement de choses, si vous leur demandez, qu'est-ce que tu aimerais? Ils sont capables d'énumérer toutes sortes de choses, mais ça se disperse dans tous les sens. Et nous, on a ce proverbe en français, on dit, à courir deux lièvres à la fois, finalement, on n'en attrape aucun. Il vaut mieux qu'on arrive à nommer et cibler les choses précisément et dire quelles sont les choses que vous désirez. Est-ce que vous seriez même capable de dire au niveau matériel, qu'est-ce que je désire? Moi, je connais quelqu'un, il y a quelques années, j'ai rencontré, et nous sommes encore, parce qu'on nous dit qu'il y a un appauvrissement de la fonction de médecin, mais nous sommes encore dans un pays où un médecin, normalement, un docteur, gagne bien sa vie. Mais je me rappelle que j'avais rencontré une personne qui venait de terminer ses études de médecine assez peu avant, et il me disait, dans l'avenir, je ne me vois pas riche. C'était étonnant pour moi parce que les médecins que nous voyons autour de nous sont en général des gens qui, au niveau social, au niveau matériel, réussissent bien leur vie. Et je me suis dit, comment ça se fait que cette personne qui a tout pour réussir ne se voit pas riche dans l'avenir? Ainsi, nous pouvons peut-être réfléchir sur un plan matériel ou sur un plan concret. Quelles sont les choses que vous désirez? Est-ce que vous pouvez maintenant, plus on est jeune, plus on désire peut-être des grandes choses, et plus on avance, plus on ajuste nos désirs et nos rêves à une certaine réalité. Ça peut être la longueur d'études qu'on a faite, les diplômes qu'on a décrochés, la situation professionnelle dans laquelle on va. On rêve de moins en moins, et ça devient de plus en plus réaliste. N'est-ce pas vrai? Mais si on voit certaines choses dans la Bible est le livre des nouveaux recommencements, des possibilités infinies, des gens de foi qui réussissent parce qu'ils s'y reprennent encore et encore et encore. J'ai une fois lu le curriculum du président des États-Unis, Abraham Lincoln, et c'était impressionnant le nombre de fois où il a perdu telle élection, pas été retenu, etc., pour finalement finir à cette fonction que beaucoup considèrent comme une des plus grandes du monde. Mais de voir que des personnes qui ont réussi, souvent elles sont passées par beaucoup d'échecs, mais ce qu'elles ont fait, elles ne se sont pas laissées abattre. Elles se sont donné les moyens de l'accomplissement. Donc vous aussi, est-ce que vous pouvez vraiment concrètement dire qu'est-ce que j'aimerais dans la vie? Est-ce que vous ne faites que survivre? Survivre, c'est une mentalité de pauvreté. Je vis au jour le jour ou dans un univers relativement restreint dans le temps où je dis bon, si je peux assurer jusqu'à la fin du mois ou des choses comme ça. Ça, c'est une mentalité de pauvreté. Vous pouvez avoir cette mentalité de pauvreté même si vous avez beaucoup d'argent, compte en manque. Comprenez? C'est ça la différence. Et vous pouvez être riche de vos rêves, de vos projets, etc., même si vous avez peu de moyens. C'est ça qui est important. Mais Jésus a dit clairement, il a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais la vie d'un homme dépend de ce qu'il y a en lui. Maintenant, soyons concrets. Si vous deviez réaliser quelque chose, construire un empire, par exemple, de business ou financier ou quelque chose comme... Certaines personnes ont laissé leur nom imprimé. Quand on vous dit Walt Disney, pensez à quoi? Vous pensez à dessins animés, vous pensez des choses qui ont envahi le monde, mais finalement c'était une personne qui s'appelait comme ça. Il a réussi que son nom soit identifié à quelque chose qui a eu une ampleur mondiale. Voyez? Donc, si vous étiez après mort et qu'on devait écrire quelque chose sur votre tombe ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se rappelle de vous? Il faut que vous, si vous voulez avancer vraiment dans la réalisation de votre rêve, sans penser forcément que vous êtes connu mondialement, mais est-ce qu'il y a des choses précises que vous aimeriez qu'on puisse dire? Nous avons par exemple, même dans notre ville, il y a certains immeubles qui portent le nom d'une famille qui a habité et qui est une famille influente, la villa, un tel, des choses comme ça. Donc ce sont des personnes qui ont marqué un temps, qui ont marqué un endroit. Ça peut être très large ou ça peut être restreint. Mais pour vous, première chose, quel est votre impact autour de vous? Vous êtes appelés à être des témoins. Vous êtes appelés à attirer les regards des gens pour mieux les conduire à Christ. N'est-ce pas vrai? Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Vous les êtes appelés à les attirer non pas pour que vous vous fassiez un grand nom, mais pour qu'au travers de vous, ça puisse aller vers lui, celui que vous servez. Mais moi je voudrais que vous puissiez trouver des choses que vous voulez réaliser. Et pas juste des choses qui soient vagues, mais que vous puissiez vraiment concrétiser. Alors admettons, vous voulez construire une entreprise ou que ce soit quelque chose au niveau industriel ou quelque chose au niveau commercial ou quelque chose au niveau bancaire ou simplement votre propre vie. Que si on passe près de votre maison, on dit, bon, qui habite là, dans cette misérable cabane? Voyez, est-ce que vous croyez que ça va attirer le regard? Je ne vous dis pas forcément que chacun d'entre nous va avoir une super villa comme à Hollywood et tout le monde va vouloir savoir, mais qui sont ces gens? Mais réfléchissez à ça, simplement à ce que ça représente. Et ensuite, examinez vos capacités personnelles. Quelles sont vos capacités? Est-ce que vous vous connaissez? Alors, si, maintenant, pour ceux qui notent, capacité personnelle, le numéro 1, qui est en rapport avec le rêve, c'est l'imagination. L'imagination. Est-ce que vous êtes capable d'imaginer? Des fois, on dit aux gens, tu imagines comme ça l'ancien défi. Est-ce que vous avez beaucoup d'imagination? Si on parle d'un rêve, votre échelle, elle va, si elle est de 1 à 10, vous vous situez où au niveau de l'imagination? Le zéro imagination, c'est rien. Je ne peux le concevoir que si c'est là, devant mes yeux. C'est vraiment le niveau, c'est pas pour rien que c'est zéro. Hein. C'est, je le vois, donc ok. Mais ces gens ne vont jamais rien réaliser. Peut-être des gens qui vont suivre d'une certaine façon, mais ils ne vont rien créer. Moi, je ne crois pas qu'aucun être sur Terre soit créé pour être un zéro. Je ne crois pas que tout le monde soit forcément un 10 dans tous les domaines, mais je crois que certains sont plus loin au niveau imagination. Si on vous parle d'un rêve, certains peuvent rêver grand. Mais comme je l'ai dit, en général, ça va plus facilement quand on est jeune. Plus on peut imaginer et rêver grand. C'est pour ça que c'est important aussi, dans l'éducation des enfants, de leur donner des jeux ou une ouverture par les lectures et plein de choses, où ils puissent ouvrir leur univers le plus large possible. Je ne veux pas faire l'éloge de notre système éducatif, de notre famille, mais au travers de certaines choses, on voit qu'il y a une ouverture sur le monde. Par exemple, même au travers de certains jeux de société. Nous avons de temps en temps joué à un jeu qui s'appelle « Richesses du monde ». Mais je trouve que c'est assez étonnant d'entendre dans la bouche des enfants de 6 ou 8 ans parler des pourcentages d'exploitation de tel minerai dans tel pays. Et ils se prennent au jeu. Mais je veux dire, ça ouvre leur univers dans ce domaine. Mais on a besoin d'ouvrir dans beaucoup de domaines. On n'a pas besoin d'être un spécialiste économique pour l'extraction de minerais, mais simplement ça donne une idée de l'imagination. Ça peut être dans d'autres domaines. Ensuite, donc vous vous êtes situé de 1 à 10, on passe à un deuxième point. Votre perception des décisions que vous prenez. Regardez votre vie depuis votre enfance jusqu'à maintenant. les décisions que vous prenez ou que vous avez prises, vous vous situez où? Est-ce que vous avez pris toujours des bonnes décisions? Est-ce que vous êtes plutôt bon dans les choix à faire? Comprenez ce que je veux dire? Ou est-ce que vous vous rendez compte au fond de vous-même que des fois vous ne saviez pas trop, que vous étiez souvent dans le doute? Parce que quelqu'un qui est capable de prendre des bonnes décisions, ça va l'aider à avancer. C'est important de pouvoir faire les bons choix, de pouvoir trancher dans certaines situations. Parce que Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Il y a donc des choix à faire constamment. C'est comme si vous vous retrouviez régulièrement, tous les jours, devant des carrefours. Il y a toujours des carrefours. Tu prends à droite, tu prends à gauche. Et donc, savoir prendre la décision et avoir après, des fois on ne s'en rend pas compte, tout de suite, après une juste évaluation. Des fois, quand vous vous trompez de route, vous savez qu'avec Dieu, vous avez encore un plan de secours ou de restauration possible. Mais l'important, c'est de vous situer. Est-ce que vous êtes plutôt bon pour prendre des décisions ou plutôt mauvais? Il faut être honnête avec soi-même. Si on est mauvais, il y a des façons d'apprendre à faire les bons choix. Par exemple, renouveler notre intelligence par la parole de Dieu, qui nous permet, comme dit la Bible dans Hébreux 4, d'avoir la parole de Dieu qui est comme tranchante, comme une épée à double tranchant pour partager âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous pouvez augmenter votre capacité. Mais vous avez besoin, si vous voulez réaliser un rêve, vous avez besoin de voir jusqu'où est-ce que je peux imaginer. Jusqu'où est ma capacité, ma perception de faire de bons choix. Troisième point, ça c'est pour faire notre petit bilan de nos capacités personnelles. Troisième point, les pressions. Est-ce que vous êtes capable de faire face à des pressions? Qu'est-ce que vous devenez quand quelqu'un vient vous faire une douche froide, quand vous étiez tout bouillant pour votre projet ou votre rêve, et que ou vous avez gonflé le ballon et quelqu'un vient avec une petite aiguille pour essayer de vous voler votre beau rêve? Est-ce que vous êtes capable de tenir bon? On trouverait dans chaque... Ce serait un peu long, mais nous avons plein de possibilités dans la Bible de voir des exemples. Par exemple, Joseph, il avait une imagination au travers des rêves que Dieu lui a donnés. Et il a pris une mauvaise décision, celle de partager son rêve. Il a dû faire face à la pression de ses frères. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tu vas dominer sur nous, etc. Comment a-t-il réagi? A-t-il dit, oh, bon, ok, j'ai exagéré, je laisse tomber. Il faut savoir tenir bon face à des pressions. N'aurez pas toujours des personnes à côté de vous et en dire, c'est bien, continue, on t'encourage. C'est sûr que dans l'Église, on devrait avoir plus ce genre de réflexe. Mais même dans l'Église, des fois, vous recevez une révélation, une vision de Dieu. Tout le monde n'est pas sur le même plan spirituel. Moi, je suis peut-être plus fort pour entendre de Dieu dans un domaine, et un autre entendra de Dieu pour lui-même dans un autre domaine. Et peut-être je ne comprendrai que par la suite qu'il a vraiment été conduit par Dieu. Alors des fois, je fais mieux de me taire et de ne pas essayer de lui voler son rêve ou de me dépêcher d'éteindre l'incendie qui est le feu de Dieu qui couve en lui. Donc, il faut apprendre, est-ce que vous savez faire face aux pressions? Vous avez un nom, un mot puissant qui est dans votre bouche, c'est « non ». Vous devez l'utiliser à bon escient, savoir dire « non ». Non aux pressions, non aux manipulations, non aux gens qui veulent vous empêcher de devenir ce que Dieu veut que vous soyez. Restez attaché à ce que vous désirez faire. J'ai parlé de business ou d'entreprise, mais c'est tellement vrai pour chacun d'entre nous. Pour un jeune, ça peut être actuellement dans sa scolarité, dans ses études. Il a peut-être un rêve de décrocher quelque chose, une capacité, un diplôme ou autre chose. Il faut savoir faire face aux pressions. De 1 à 10, vous pouvez vous noter vous-même. Je ne relèverai pas les copies à la fin du message. Quatrième point, êtes-vous audacieux? Souvent, on prie toutes sortes de choses. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque les apôtres étaient en train de réaliser le rêve de Jésus, Actes des apôtres, les premiers passages, les premiers chapitres, le réveil, celui dont nous rêvons tous. Des gens qui viennent par milliers, des disciples qui s'ajoutent, des réunions dans les maisons, dans le temple, partout. Et voilà tout de suite la réaction de l'ennemi, la persécution, les pressions. Comment ont-ils fait face à la pression? Ils ont prié, ils ont dit « Seigneur, tu vois leurs menaces, étends ta main qu'ils se fassent des miracles au nom de Jésus. Et donne-nous de l'audace, de la hardiesse pour annoncer ton nom. » C'est la seule chose qu'ils ont prié. Ils ont dit « Oh Seigneur, protège-nous qu'il ne nous arrive rien. Oh, Seigneur, donne-nous plus d'amour. Seigneur, donne-nous plus de la puissance du Saint-Esprit. » Non, ils savaient qu'ils avaient ces choses. Mais ce qu'ils savaient, dont ils avaient besoin, c'était de l'audace. Si vous n'entreprenez rien, vous savez qu'il ne se passera rien. Les gens ont envie des personnes qui réussissent, mais ils ne veulent rien faire. Vous savez, ceux qui réussissent dans la vie, ce ne sont pas ceux qui rentrent du travail et se mettent dans le fauteuil avec les pantoufles devant la télé toute la soirée. Ceux-là ne réalisent rien. Ils ne réalisent rien. Les gens disent « ça c'est pour me détendre ». Ce n'est pas une détente. C'est une façon d'être abruti et une façon de ne pas pouvoir rentrer dans les choses que Dieu veut pour nous. Je n'ai rien du tout contre des moments de distraction, on peut une fois regarder quelque chose. Ce n'est pas la question. La question, c'est une question d'attitude. Les gens qui réussissent, ils savent faire ce qu'on appelle en anglais le « extra mile ». Ça veut dire, quand quelqu'un te force à faire un mille faisant un deuxième, ça veut dire on est capable d'aller plus loin que le strict minimum. Et vous savez, ça c'est des gens qui sont recherchés dans le monde du travail actuellement. Ce n'est pas ceux qui s'arrêtent avant l'heure. C'est ceux qui savent rester un peu plus longtemps et qui savent s'investir dans ce qu'ils font. Alors peut-être il y a des abus dans le monde du travail, peut-être le monde de l'entreprise n'est pas toujours ce qu'il faut, mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'abus. Et les heures supplémentaires sont bien payées. Nous sommes les premiers bénéficiaires et Dieu fait bien les comptes. Il n'est le débiteur de personne. Alors, souvenons-vous, quel que soit l'endroit où nous place, nous sommes avant tout ambassadeurs pour lui, où que nous soyons. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc voilà, on a fait notre petite estimation de nous-mêmes. On a vu que si on veut réaliser quelque chose, il faut qu'on se situe sur l'échelle de 1 à 10. Dans n'importe quelle situation, il y a toujours du progrès possible, hein, avec l'aide de Dieu. Et maintenant que nous avons vu nos capacités personnelles, passons à la réalisation. La réalisation, le nécessaire de base que nous avons, et certaines choses, je ne vais plus y revenir, mais la première nécessité, c'est le désir. Si vous n'avez pas le désir, vous n'allez rien accomplir. Le désir, c'est le moteur de nos actions. Ceux qui avaient un rêve avaient toujours un désir de le réaliser. Ça ne leur est pas tombé dessus comme ça. Et souvent, il y a un mot-clé qu'on n'aime pas, mais qui est pourtant nécessaire, et le mot « souffrance ». Il y a toujours une part de souffrance avant la gloire. Jésus l'a connu, il a passé par des souffrances avant d'accéder à la gloire. Et pour nous-mêmes, il y a toujours une part de souffrance. Je ne parle pas de mortification, de flagellation, que sais-je encore. Je parle d'une souffrance parce qu'il y a des choses en nous qui n'aiment pas certaines choses qui sont nécessaires. Nous sommes par exemple, si quelqu'un veut être un athlète qui réussit, il faut qu'il s'astreigne, il faut que son corps soit mené durement. L'apôtre Paul disait même ça de lui. Je traite durement mon corps pour pouvoir courir dans la course et pour pouvoir faire comme un athlète ferait dans le stade. Donc il y a un moment de souffrance et de privation, mais en vue de quelque chose. Pas juste parce qu'il a envie de se faire du mal à soi-même. Donc là aussi, le désir. Est-ce que vous pouvez vous le noter sur une échelle de valeur de 1 à 10 pour votre rêve, vous en êtes où? Si vous êtes à 1 pour votre désir de voir s'accomplir votre rêve, vous savez que vous pourrez attendre très longtemps. Hein, puisque c'est le moteur, le désir. Ça veut dire que vous avez un tout petit moteur qui tourne à petit régime. Ça ne va pas loin, ça ne va pas vite. Ça va peut-être loin, mais dans très longtemps. Ensuite, votre capacité de travail de 1 à 10. Qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir? Est-ce que vous êtes appliqué à la tâche? Dans Josué 1:8, nous avons aussi un passage que nous connaissons bien et que j'aimerais lire à cette occasion. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si j'étais un homme d'affaires chrétien, je m'emparerais vraiment de ces versets pour les mettre en pratique. Donc, quelle est mon application au travail? Si on dit, Josué, tu veux réussir, voilà ce que tu dois faire. Combien de la parole de Dieu demeure en vous? Je ne vous dis pas de lire la Bible 24 heures sur 24, je vous dis de la méditer jour et nuit. Que vos pensées soient habitées par ça. Nous avons des moyens maintenant pour nous saturer de la parole. Se saturer de la parole, ce n'est pas se remplir, se truffer la tête de bagages théologiques, dogmatiques. Ce n'est pas autant que vous allez lire qui va vous faire du bien. C'est combien de paroles vous accueillez en vous, que vous vous dites régulièrement, je suis capable de réussir. Dieu m'a donné de l'intelligence, il m'a donné des talents, il m'a donné des dons, je les développe, je les mets au service de Dieu. Je dirige mes pas d'après la volonté de Dieu. Donc, votre application au travail, de 1 jusqu'à 10. Ensuite, examinez-vous par rapport à un statu quo. Un statu quo, terme latin, ça veut dire que on en reste dans l'état où on est. Il n'y a rien qui bouge. Si vous faites exactement ce que vous êtes en train de faire et que vous ne changez rien, quelle chance avez-vous de voir votre rêve se réaliser? Vous voyez? Si vous êtes en train d'agir en vue de faire la réalisation du rêve, vous pourriez dire, ben voilà, je suis en plein dans la course, je suis dans la direction, je suis en route vers l'accomplissement. Mais si au fond de vous, vous rendez compte, mais j'en suis à un statu quo, c'est-à-dire, si je ne change rien à mes habitudes, ce rêve ne se réalisera jamais. Dans ce cas, il faut que vous vous réveilliez et dire, mais oui, j'aimerais que quelque chose se réalise, mais je ne fais pas ce qui est nécessaire pour qu'il puisse se réaliser. Je ne dois donc pas me bercer d'illusions et dire « un jour, ça va marcher ». Ce serait que là, une douce rêverie, en disant « un jour, ça va marcher ». Comme on pourrait dire « bon, demain, il fera beau », mais on l'espère, on n'en sait rien. Donc, encore évaluation. Et le dernier point de ce nécessaire de base pour démarrer à l'accomplissement de votre rêve, c'est votre capacité d'absorber de nouvelles connaissances. Il est dit, mon peuple périt par manque de connaissances. On a la mort qui s'installe, la mort qui fait son travail plus que la vie de Dieu, parce que nous manquons de certaines connaissances. Et c'est vrai dans le domaine spirituel, mais c'est aussi vrai dans le domaine naturel. On sait que la pauvreté est en grande partie le résultat de quoi? Le manque d'éducation. Les gens qui ne savent ni lire ni écrire n'accèdent pas à certaines fonctions, n'accèdent pas à une certaine liberté dans le travail, dans les découvertes, dans les réalisations. Et donc, si on pouvait, et ça... Des fois, c'est trop tard déjà. Quand on a passé nos études et nos années, ah, si seulement j'avais peut-être plus travaillé à ce moment-là, dans telle ou telle matière ou telle année, on a des regrets. Mais il n'est pas, premièrement, trop tard pour influencer des gens autour de nous. On a des jeunes, on dit, vas-y, apprends. C'est une période à part. Tu n'as pas besoin d'exercer une activité professionnelle. Tu peux te donner tout entier aux études. Celui qui a compris ça, il dit « maintenant je veux apprendre ». Mais vous savez, il y a des gens qui des fois donnent des témoignages de gens qui n'étaient illettrés ou qui étaient, n'avaient rien comme aptitude au départ, mais qui sont devenus des autodidactes. Ils ont appris, ils ont dévoré des livres, ils ont lu, ils ont expérimenté, et ensuite ils ont pu changer leur destinée. Mais nous avons tous une possibilité d'apprendre. Mais vous savez aussi où vous en êtes. Quelle est votre capacité d'absorption? Peut-être votre capacité est faible, mais qu'est-ce qui vous empêche de dire « Seigneur, augmente ma capacité ». Peut-être c'est parce que, si vous me permettez l'expression, notre cerveau est des fois un peu rouillé. On a besoin, mais des fois on a besoin de se rafraîchir un peu. Moi, j'ai toujours bien aimé jouer aux échecs. J'ai appris quand j'avais à peu près 10 ans. Mais il m'arrive que, par manque de temps ou parce qu'on fait beaucoup d'autres choses, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne joue pas. Et la première ou deuxième partie est de nouveau difficile. Il faut de nouveau faire travailler un peu tous ces mécanismes. Mais pour vous, ça peut être autre chose. Ça n'a pas besoin d'être un jeu forcément de logique. Certains ont, c'est au niveau de la logique, d'autres c'est au niveau d'autres domaines. Mais vous pouvez augmenter votre capacité d'absorption. Vous le croyez ça? L'apôtre Paul écrivait à son enfant spirituel, à Timothée, c'est un verset que j'ai souvent cru et déclaré, dans 2 Timothée 2, 7, il dit « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Il croyait que Dieu était la source de l'intelligence et qu'il pouvait aider Timothée à progresser. Et moi, si j'étais maintenant un étudiant au niveau scolaire, je dirais « Oui, je veux m'en emparer de ça. » Que Dieu m'aide dans mon travail scolaire, dans mes études. Mais nous, qui avons peut-être déjà notre situation professionnelle ou familiale établie, on a beaucoup de domaines dans lesquels on peut progresser. Maintenant, pour la réalisation de ce rêve, on va voir, on a vu deux séries déjà. Les capacités personnelles, imagination, la perception des décisions, réaction par rapport aux pressions, savoir si on est audacieux, ça c'était les capacités personnelles. Ensuite, le nécessaire de la base pour la mise en route, on a vu le désir, l'application au travail, que faire si rien ne change, qu'est-ce que ça va produire pour l'accomplissement du rêve, et la capacité d'absorber des connaissances. Donc on a vu ces deux fois quatre séries. Maintenant j'aimerais qu'on puisse voir la mise en route. Si vous avez un rêve et que vous désirez le mettre en route, qu'est-ce que vous avez à votre disposition actuellement? Admettons, votre rêve c'est acheter un château. D'accord? Vous avez toujours rêvé de ça. Vous voulez acheter un château. Est-ce que vous avez mis de l'argent de côté pour votre rêve? Vous savez, un château, ça coûte quand même relativement cher. Et même si on disait, bon, ok, je vous paye le château. Vous savez qu'après, il faudrait entretenir le château. Vous ne pouvez pas dire, chouette, j'ai un château maintenant. Peut-être même vous devriez payer l'impôt sur la fortune. Hein. Et donc, mais c'est un problème réel. Donc, qu'est-ce que vous avez actuellement à votre disposition pour l'accomplissement de votre rêve? Je m'explique. Si vous voulez acheter un château et que vous avez 0 euro de côté pour cet achat, combien vous en aurez demain? 0 aussi. Après-demain, peut-être 0 aussi. Qu'est-ce qui fait que ce rêve peut se développer? Pour une église, ça peut être dans le sens de, on veut un bâtiment à nous. On veut construire un bâtiment. Un temple, une chapelle, appelez-le comme vous voulez, une salle. Et on dit, bon, on fait un fonds pour le bâtiment. Combien on a en fonds pour le bâtiment par rapport à un projet qu'on aurait chiffré? Combien de pourcentage? Et dans combien de temps faudra-t-il pour que cette chose puisse se réaliser si on continue dans le sens de ce qu'on est en train de faire? Peut-être il nous faudra 300 ans pour construire l'église. Vous voyez, des fois, nous devons mettre aussi notre cerveau, puisqu'on veut servir le Seigneur de tout notre être, tout notre cœur. Le cerveau, l'intelligence, a été donné par Dieu pour qu'on puisse s'en servir. Et on se rendra compte que les gens, en fait, espèrent un miracle, mais que ce genre de miracle relève plutôt du tour de magie ou du gain au loto dont les gens rêvent autour de nous. On dit, tout à coup, quelque chose se produira. Alors j'ai dit, on se prive du spectaculaire, du miraculeux, parce qu'on ne sait pas voir le miraculeux de ce que Dieu peut faire tous les jours. Si vous voulez réaliser un rêve, c'est peut-être une bonne chose de commencer à mettre de côté pour ce rêve. Vous savez, quand j'ai parlé de château, c'était peut-être extrême. Mais pour quelqu'un, pour un jeune, ça peut être, il veut s'acheter un vélo ou un ordinateur, ou voulait enfin avoir une voiture qui soit neuve et pas une vieille voiture, ou avoir sa maison personnelle, ça n'a pas besoin d'être une immense villa. Chacun peut voir à son niveau. Mais s'il ne change rien, qu'est-ce qui peut se réaliser? Alors, combien avez-vous de cash dans votre portefeuille ou dans votre compte bancaire? Ensuite, pour la mise en route, il faut faire un planning. Jésus a dit, si un homme veut construire une tour, il faut qu'il s'assoie et qu'il calcule la dépense. C'est des instructions du maître. Il n'a pas dit, parce que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe dans le monde chrétien. Je regarde, et ensuite on dit, ça coûte trop cher, on n'arrivera jamais. Et le projet est fini. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit, vous voulez construire une tour, asseyez-vous et calculez. C'est-à-dire, faites un planning de voir comment vous pouvez réaliser ces choses. Et moi, je dis, c'est pas seulement, l'évangile n'est pas seulement pour certaines personnes. Certaines personnes qui vivraient dans un pays riche et qui auraient eu de la chance d'être favorisées. Non, l'évangile, ça doit marcher partout. Il est universel. Ça doit marcher partout. Et il y a des régions du monde, on dit qu'elles sont pauvres, mais des fois, il y a plus de ressources qu'on imagine. Actuellement, c'est le continent africain qui recèle le plus de trésors et de richesses et de dans le sous-sol et de possibilités. C'est juste une question de comment les choses sont exploitées et gérées. Parce que le monde occidental, à un moment, a connu une expansion et une croissance, mais on sait qu'il y a un ralentissement des pays, États-Unis, Europe, qui jusqu'à présent étaient toujours devant. Il y en a d'autres qui sont en train de rattraper et de dépasser, parce qu'ils mettent en application un certain nombre de choses. Donc pour nous aussi, il faut un planning. Et comme je parle de ces choses, je dis, par exemple, quelqu'un qui voudrait entreprendre quelque chose. Quelle est votre vision de l'économie mondiale? Qu'est-ce que vous connaissez de l'économie mondiale? Qu'est-ce que vous savez de ces choses? Vous savez que la Bible dit que les richesses du païen sont réservées pour le juste. Vous avez déjà entendu cette parole? Et vous n'avez aucune idée de quelles sont les richesses du païen. Et à cause de ça, on a une mentalité de pauvre, parce que nous voyons l'économie mondiale comme un gâteau. Chacun a sa part de gâteau. Si mon voisin a une part plus grande, la mienne sera donc plus petite. Et ça, c'est une vision erronée. La vision telle que Dieu nous a placés sur cette planète, c'est qu'il nous a placés sur une planète où il y a des richesses, où il y a des ressources. Parce que Dieu est assez intelligent pour avoir mis l'être humain sur une planète qui lui permettra de survivre sur cette planète. D'accord ? Maintenant, ce que l'homme en a fait est en train de gaspiller énormément de ressources, et malgré cela, il y en a encore assez pour le moment. Nous pensons que Jésus reviendra avant que ce soit la fin de ce que certains imaginaient, mais pour le moment, il y a encore une vision globale de l'économie de ce monde. Vous entendez parler peut-être dans certains endroits de récession, de chômage, de ralentissement économique, de tout ce que vous voulez, mais globalement, la planète est encore dans une dynamique de croissance. Et il y a encore beaucoup de richesses à découvrir, exploiter et transformer. Donc nous devons avoir une vision juste et dire, nous pouvons aussi participer peut-être ici dans l'auditoire, il n'y a pas de personnes qui veulent entreprendre des affaires ou développer des choses, mais de l'ensemble des personnes qui écouteront, nous pouvons avoir une influence sur le corps de Christ, de manière que des hommes et des femmes d'affaires chrétiens puissent influencer de la bonne façon l'économie mondiale. Et vous savez que ça va aussi permettre de diffuser l'évangile. Parce qu'avec quoi on va diffuser l'évangile? C'est avec le soutien du peuple de Dieu, dans ce qu'ils donneront librement comme offrande. Si un homme d'affaires gagne 10 millions d'euros et qu'il donne sa dîme, ça peut aider l'avancement de l'évangile. C'est peut-être pas le besoin d'une église locale, mais c'est certainement dans ce genre de chiffres que l'on mesure les temps d'écoute à la télévision ou des choses comme ça. Or, nous sommes à l'ère du satellite et des médias. Ils se contrôlent par l'argent. L'argent ouvre toutes les portes. Il y a de la puissance dans l'argent. C'est pour ça que nous devons décider qui servir, Dieu ou l'argent. Et servir Dieu avec notre argent, plutôt que devenir l'esclave. Donc c'est important pour nous, quelle est votre vision de l'économie mondiale? Elle se situe peut-être entre zéro et presque rien. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui faisait une déclaration, et c'est un homme d'affaires mondial qui a une très très grande influence, lui se situait à 3 sur 10. Alors je crois que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe réellement au niveau mondial. Mais Dieu, lui, a une vision mondiale, parce qu'il a tant aimé le monde, et heureusement il est au-dessus de tout ça, et il voit les choses. Mais nous ne pouvons pas avoir d'influence si on n'a pas une vision juste. Et finalement, et le dernier point, quel est votre potentiel? Avec tout ce que vous avez vu, tout ce que vous mettez en route, ou tout ce qui n'est pas encore ajusté, quel est votre potentiel de réellement atteindre vos désirs et vos buts? Je crois que si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes et de faire un petit bilan, et ce n'est pas pour vous déprimer, mais c'est de dire que notre potentiel, si je dois le situer de 0 sur 10, il n'a certainement pas la moyenne. Je ne pense pas que, je ne vais pas vous blâmer, mais je crois que chez aucun d'entre nous, nous ne sommes à la moyenne pour notre potentiel. Notre potentiel est plus proche du 0, disons du 1, pour être gentil, que du 10. Or, nous avons été créés en Jésus-Christ avec un potentiel de 10. Il nous a créés comme ça. Nous nous sommes simplement laissés berner ou limités par le diable. Nous avons tellement plus en nous. Mais ça ne veut pas dire que chacun deviendra un homme d'affaires. Mais vous pouvez être influent. Vous pouvez développer vos capacités. Vous pouvez être une personne qui attire. Les gens autour de vous vont vouloir venir à vous, pas parce que peut-être vous avez une grosse voiture ou beaucoup d'argent, mais parce qu'ils sentent que vous avez quelque chose. Chez l'un, il va voir plutôt la joie qui se manifeste, et l'autre il dit, mais avec toi on se sent bien, il y a la paix de Dieu, et parce que vous avez quelque chose, un rêve que vous avez mis en route. Peut-être des gens aimeront venir en visite chez vous, parce qu'ils se disent, dans votre maison, c'est différent. On sent quelque chose qui fait qu'on est bien chez vous. Il y a la paix de Dieu, la présence de Dieu qui se manifeste. Donc, votre potentiel, développez-le. Développez-le. Et vous savez que ce n'est pas par vos efforts charnels que vous allez le faire. Vous allez laisser l'Esprit de Dieu agir en vous. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est merveilleux. Nous avons eu la visite du pasteur John Madden, et j'ai retenu aussi sa phrase. Il disait, ne cherchez pas des raisons pour échouer. Cherchez des moyens pour réussir. Et des raisons, en fait, il disait des excuses pour échouer. Des fois, on a raté quelque chose, on a échoué ici ou là. Et puis on cherche des excuses, on cherche à expliquer pourquoi. Ça ne m'intéresse pas de passer ma vie à tourner mon regard vers ce qui est derrière moi et qui n'a pas été. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas rester collé dans mon passé. Je veux trouver des moyens de réussir là où j'ai échoué jusqu'à présent. Je veux réussir et aller au-delà. Et on va s'arrêter ici. Simplement, on va se rappeler encore une fois les trois points que j'ai dit. Nous avons une sens de la destinée. Éphésiens 3:20. Dieu peut par la puissance qui agit en moi. Dites avec moi. Dieu peut par la puissance qui agit en moi faire infiniment au-delà de tout ce que je pense ou tout ce que je peux imaginer. J'ai un potentiel parce que je suis créé en Jésus-Christ. Et je vous avais dit qu'on en parlerait, alors je veux juste vous citer encore l'apôtre Paul dans Philippiens. Il disait, et ça va exactement dans le même sens, dans Philippiens 3:10, « Ainsi je connaîtrai Christ, chercher à connaître Christ. » Absorber des connaissances, c'est comme si vous étiez une éponge. Vous êtes sec et vous voulez que l'eau de la parole, Jésus lui-même, la parole vivante, vienne vous étancher votre soif, et que par cette connaissance de Christ, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous avez vu, le mot souffrance est présent à nouveau. Je suis en communion avec ses souffrances. Je réalise ce qu'il a fait. Il a souffert, il a abandonné certaines choses en vue de gagner des meilleures. En devenant conforme avec lui dans sa mort, c'est-à-dire le don de soi, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection des morts. La vie de résurrection, c'est celle qui nous attend. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. L'apôtre Paul écrivait ça à la fin de sa vie. Il trouvait qu'il n'avait pas encore atteint son but. Beaucoup d'entre nous, on serait contents si on avait fait un dixième ou un centième de ce qu'il a accompli au moment où il a écrit ça. Mais il dit, je n'ai pas encore atteint. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Il n'a pas ralenti sa course à la fin. Il a gardé encore le second souffle. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Saisi, c'est comme si, on pourrait imaginer, Jésus l'attrape par la main et le tire à lui. Et nous, on doit ne pas lâcher cette main. On doit se laisser emporter et saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, ça veut dire, moi, je n'ai pas encore totalement tout compris. J'essaye. Mais heureusement, lui me saisit dans certaines situations. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Le meilleur conseil, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but et je veux remporter le prix. Le prix, il y a double prix. Celui pour l'éternité, on dit c'est bien, entre dans la joie de ton maître. Et il y a le prix maintenant. Et le prix, il est détaillé un peu plus loin. Il dit, nous qui sommes citoyens des cieux, verset 20, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est-à-dire que nous commençons à voir le miracle de Dieu sur notre vie. Et nous commençons à être ces personnes qui sont différentes. Et que Jésus paraisse au travers de nous. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.